vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, bienvenue à Je vote pour la science. Fin septembre se déroulait le premier symposium canadien sur la COVID longue ou syndrome post-COVID-19. Le nombre de Québécois atteints de la COVID longue voisinerait plus de 1000 personnes. Une maladie handicapante où des symptômes débilitants perdurent pendant des semaines ou des mois après une infection aiguë de la COVID-19. On parle de fatigue chronique, de douleurs, de maux de tête, de problèmes respiratoires, de sommeil, de difficultés de concentration et de bien d'autres symptômes. Cela toucherait près de 15% des personnes ayant contracté la COVID, soit près d'une personne sur 6 et près d'un travailleur de la santé sur 10 en souffrirait, selon une récente étude de l'Institut national de santé publique. Des chercheurs canadiens se sont donc réunis durant 2 jours pour partager leurs connaissances, démystifier le syndrome post-COVID et trouver des solutions pour que les patients de cette pathologie vivent mieux. Que comprend-on de la COVID longue et comment soulager ceux et celles qui en souffrent? On en parle tout de suite, restez là. Fatigue chronique, maux de tête, douleurs et courbatures, brouillard mental, ce ne sont que quelques-uns des symptômes avec lesquels de très nombreux Québécois vivent. Ils ont la COVID longue ou le syndrome post-COVID. Cette pathologie survient après avoir contracté la COVID-19 et pose des défis de taille pour les chercheurs et surtout les patients vivant avec elle. Pour en parler, je suis en compagnie de Marie-Hélène Poudria, professeure agrégée à l'école de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill. Elle est physiothérapeute de formation, elle est aussi neuroscientifique. Vous êtes aussi membre du comité d'experts du réseau des cliniques spécialisées en syndrome post-infectieux COVID-19 longue et maladie de Lyme du CHUM. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Guylaine Dussault, conseillère principale en RH et patiente atteinte de la COVID longue que nous rejoignons dans la région de Québec. Bonjour Madame Dussault.
Bonjour.
Et en compagnie d'Alain Moreau, professeur titulaire à la faculté de médecine dentaire au département de stomatologie et à la faculté de médecine du département de biochimie et de médecine moléculaire de l'Université de Montréal, directeur du réseau canadien de recherche concertée interdisciplinaire sur l'encéphalomyélite myalgique EM. Bonjour.
Bonjour.
Donc, bienvenue à tous les trois. Le syndrome post-COVID, connu aussi sous le nom de COVID longue, est une pathologie réelle, encore bien incomprise et sous-diagnostiquée. Il y aurait plus de 200 symptômes touchant plus de 10 systèmes corporels, respiratoires, nerveux, circulatoires, digestifs, musculo-squelettiques. Près de 10% des personnes qui ont contracté la COVID vivent avec une fatigue incapacitante, des douleurs musculaires, une tachycardie ou encore des malaises post-effort. On va explorer tout ça. Que dit la recherche et comment se portent les malades qui ont le syndrome post-COVID? Nous allons voir ça. Peut-être pour commencer, Madame Dussault, vous avez contracté la COVID en janvier 2022 et donc depuis 1 an et 9 mois, vous souffrez de COVID longue. D'abord, comment allez-vous?
Je vais un peu mieux. En fait, c'est certain, en janvier 2022, lorsque je l'ai eu, j'ai été un bon quand même 3 mois et demi sur le dos, comme on dit. Je l'ai recontracté aussi en août 2022, donc 2 fois. C'est certain que c'était beaucoup respiratoire de mon côté. La toux, le mal de gorge, bien entendu, la fatigue extrême, maux de tête. J'avais toujours un point à la poitrine là, qui m'empêchait de dormir, une genre de sensation de froid là, lorsque je respirais. C'était vraiment là, assez intense. Là. J'ai visité beaucoup de médecins d'urgence à ce moment-là parce que j'avais même peur de ne pas me réveiller là, le matin. Et puis par la suite, la toux quand même a diminué là, après un bon 3 mois et demi. Les problèmes respiratoires, ça a toujours un peu continué. Maintenant, c'est comme une sensation de petite bulle là, qui éclate à la fin de mon inspiration. Donc, j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit quelque chose. Bien entendu, la fatigue reste, le mal de tête et tout ça. Le brouillard mental, difficulté à me concentrer, à réfléchir. Je suis incapable de lire plus qu'un paragraphe. Des douleurs musculaires, des problèmes de digestion. Des fois, j'ai l'impression d'être comme une femme enceinte, j'ai tellement le ventre gonflé. Il y a tellement de symptômes aussi. Ma vision, des fois, s'embrouille. Tout d'un coup, j'ai l'impression que je vois pas bien d'un œil. Puis le niveau d'énergie baisse tellement vite. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses. Là, c'est difficile même à expliquer. Puis il y en a tellement de symptômes.
Vous avez quand même une famille qui comprend?
Oui, effectivement. J'ai beaucoup de support au niveau de ma famille proche, de mes amis proches aussi. Ils s'inquiètent aussi pour moi. Bien entendu, c'est difficile à comprendre hein, pour eux quand même, parce que ça paraît pas toujours. Ça paraît dans mon visage, mes yeux, mais quand même, c'est pas toujours visible. Maintenant, c'est même mon conjoint qui me dit de pas trop en faire. Ça, au niveau, je suis vraiment bien encadrée. Quand je parle plus à mes connaissances, là, ils sont comme, ah, oh, OK, c'est quoi ça? C'est quoi tes principaux symptômes? Puis il y a de l'incrédulité quelque part. Au début, maintenant, beaucoup plus, parce qu'au début, je pense que les médecins même, ils savaient pas trop c'était quoi et tout ça. Maintenant, je me sens plus accompagnée. Là. J'ai un médecin spécialiste, un médecin de famille, physiothérapeute. J'embarque dans un programme aussi. Donc, je me sens plus épaulée.
Oui. Racontez-nous peut-être, il y a des deuils à faire. Comment c'est une journée typique pour vous?
Mais en fait, je mets le cadre à 8 heures parce que j'ai des enfants qui vont à l'école, donc je veux m'assurer qu'ils partent à l'école. Sinon, je continuerai à dormir. Je déjeune, je fais des petites tâches légères, vraiment là, légères, quand je vais partir une brassée, la lavage, peut-être ramasser ma vaisselle et tout ça. Lorsque j'ai des rendez-vous, par exemple, là, dans la journée, je m'organise pour ne pas faire d'autres choses. Puis jamais 2 jours de suite. Je fais un petit peu d'artisanat. Quand il fait beau, je vais dehors. Je vais dîner. Mais rendu dans l'après-midi, puis le souper, là, je suis pas capable. J'ai plus d'énergie pour faire le souper. Je suis très fatiguée. Donc, moi, mon dodo, là, 7h30, 8h maximum, là, je suis couchée.
Oui, vous avez renoncé à retourner au travail?
Oui, là, c'est certain que je ne retourne pas au travail. Pas encore. Là. On va voir ce qui va se passer. C'est certain que pour le travail, je me vois pas vraiment là, recommencer tout de suite.
Oui, on comprend. Madame Boudria, professeur Boudria, il y a eu récemment le premier symposium canadien sur la COVID longue auquel vous avez participé. Parlez-nous un petit peu des personnes qui sont peut-être les plus touchées par les pathologies, par cette pathologie.
Oui, alors c'est beaucoup plus les femmes qui sont touchées. On parle de à peu près 65 à 70%. Et aussi, la proportion d'âge serait davantage celle âgée entre 35 et 55 ans. Donc, ça, c'est notre population cible. Et il n'y a pas vraiment... il y a quelques facteurs qui sont associés davantage au développement de la condition, donc en présence de diabète. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de facteurs ou de caractéristiques qui fait que quelqu'un va développer la condition plus qu'une autre. Donc, ça rend vraiment toute personne qui peut être atteinte là, sans nécessairement avoir une prédisposition quelconque.
Oui, c'est difficile à diagnostiquer aussi, à tester, j'imagine.
Oui, en ce moment, c'est vraiment un bilan clinique qui nous permet là, de faire d'établir un diagnostic, donc pas de test spécifique. Et ça prend beaucoup d'écoute, donc souvent, c'est des gens qui ne savent pas nécessairement qu'ils sont atteints. Ça prend quelqu'un qui est capable d'écouter pendant un moment, parce qu'on a, Mme Dussault nous a mentionné, on a un ensemble de symptômes, là, jusqu'à 200 symptômes qui sont répertoriés pour cette condition. Et voilà, il faut vraiment écouter et bien discerner, c'est ça, les symptômes qui sont présents.
Et ouais. Écouter avec bienveillance aussi.
Tout à fait.
Sans jugement. Professeur Moreau, vous êtes un spécialiste de l'encéphalomyélite myalgique. EM, je vais l'appeler comme ça tout le long de l'émission, qu'on connaît donc aussi sous le nom de syndrome de fatigue chronique, ce qui touche plusieurs parties du corps et qui reste mal compris encore. De nombreux patients de la COVID longue en souffrent. Expliquez-nous.
Bien, effectivement, l'encéphalomyélite myalgique, si vous préférez le syndrome de fatigue chronique, dans près de 75% des gens, les personnes qui vont développer cette condition-là, le développe suite à une infection virale, donc que ce soit le virus de la grippe, que ce soit le virus de la COVID, mais aussi d'autres virus comme le West Nile virus ou des virus un peu plus exotiques là, qui vont amener à un développement, une fatigue profonde, inexpliquée, même suite après un repos, on peut pas récupérer, et également d'autres symptômes. Mais le symptôme cardinal de l'encéphalomyélite myalgique qui est aussi très présent chez les gens qui ont la COVID longue, c'est vraiment ce fameux malaise post-effort qui permet un peu de distinguer par rapport à d'autres conditions facilement, et ça a pour conséquence de perturber évidemment le sommeil, mais aussi d'amener une aggravation d'un vaste ensemble de symptômes. Donc, on est assez bien placé pour comprendre ce qui se passe avec la COVID longue. Et pour nous, la COVID longue, c'est un peu comme une transition. Donc, en soi, c'est pas une maladie. C'est une transition. Et ce qui est important pour nous, d'un point de vue recherche, et même chose pour les cliniciens, c'est d'établir les trajectoires. Donc, après quel moment quelqu'un va être capable de récupérer, et on comprend que ça peut prendre pas mal de temps, donc ça peut prendre facilement dans certains cas jusqu'à 2 ans. Mais on est capable, on a développé des tests, on a développé des biomarqueurs qui sont toujours à l'étape de la recherche, malheureusement, mais on est capable de voir ces trajectoires-là. Donc, je vous dirais que près de 60% des gens qui ont la COVID longue après 6 mois, et là, je parle des gens qui n'ont même pas été hospitalisés pendant leur COVID, mais qui avaient des symptômes moins légers à modérés, ou même dans certains cas, ils étaient asymptomatiques, ont développé une COVID longue et qui persiste au-delà de 6 mois. Donc, lorsqu'on recrute ces gens-là, on les a testés, on a pu, grâce à différentes approches et différents biomarqueurs, notamment par la provocation du malaise après effort par une méthode standardisée. Donc, on révèle ce qu'on voit habituellement pas si on fait une simple prise de sang au repos. C'est ce qui arrive dans la plupart des cliniques COVID longues. Donc, les prises de sang et les marqueurs usuels sont d'aucune utilité parce qu'on voit rien. Mais en faisant cette manœuvre provoquée standardisée, on révèle vraiment des facteurs clés qui expliquent un ensemble de symptômes, et on peut prédire la trajectoire des gens à l'avance. Donc, ce qui est important dans un contexte de briser un certain cercle vicieux pour empêcher justement que les gens développent l'encéphalomyélite myalgique, par exemple. Donc, 60% des patients qu'on a regardés avec COVID longue vont soit faire l'encéphalomyélite myalgique après 14 mois, et ou la fibromyalgie, ou une combinaison des deux, ce qui est encore plus aggravant. Par contre, on voit aussi 2 autres sous-groupes. On a des gens qui vont, ce qu'on résume par des troubles neurologiques, et aussi des gens avec, un peu comme Mme Dussault, avec une affectation, des troubles respiratoires assez sévères, notamment lorsqu'ils sont en effort. Donc, ça ressemble un peu à un emphysème très sévère, qui amène des grandes limitations. Donc, on est capable de prédire ces choses-là, et on a toutes différentes approches là, qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, prédire les trajectoires, je pense que c'est un gros plus qui s'en vient, au même titre de trouver des solutions thérapeutiques pour chacune de ces trajectoires.
Oui. Professeur Boudria, vous vous intéressez à l'impact de la COVID-19 sur le cerveau. Votre étude se penche sur les effets à long terme de la COVID longue sur le système nerveux autonome et les symptômes de dysautonomie. Vous allez nous expliquer, en utilisant, entre autres choses, la neuroimagerie. Donc, expliquez-nous un petit peu comme l'effet sur le cerveau de cette COVID.
Alors, il y a des études qui ont montré là, qu'il y a vraiment, et ça c'est une étude qui s'est déroulée en Angleterre. Donc, à travers une biobanque, on a pu voir, comparer les images de résonance magnétique qui ont été faites avant quelqu'un qui a attrapé la COVID et après. Et on voit qu'il y a une dégénérescence au niveau de la matière grise du cerveau d'à peu près 3% qui correspond à un vieillissement de 10 ans. Et on a aussi des mesures qui montrent qu'il y a une diminution de l'excitabilité du cerveau, particulièrement du cortex moteur, qui expliquerait peut-être en partie là, un ensemble de symptômes là, reliés avec la fatigue et durant le mouvement. Alors, nous, on a eu des fonds de l'Institut de recherche en santé du Canada pour aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau et de voir particulièrement la cause des symptômes qui sont associés là, à un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Entre autres, chez les gens qui souffrent de COVID longue, certains ont des symptômes comme l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire que c'est une chute de pression lorsqu'on se lève ou lorsqu'on change de position, et aussi une tachycardie orthostatique posturale. Lorsqu'on change de position également, ben il y a le cœur s'accélère, et là, on est en présence de maux de tête, malaise, fatigue, et sueur et nausées. Donc, on essaie de voir quelle est la cause de ces symptômes-là, et on va pouvoir le faire sur une cohorte de 300 participants. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez
exhaustif. Expliquez-nous ce que c'est que le dysautonomie. Dysautonomie, voilà, je l'ai dit.
Ben, en fait, c'est toutes les fonctions qui ne sont pas dans notre contrôle, donc la digestion, la tension artérielle, le cœur, donc tout ce qui se passe dans notre corps dont on n'est pas nécessairement conscient et qui est sous le contrôle du système nerveux autonome. Donc, c'est vraiment, il y a plusieurs, les centres se trouvent dans le tronc cérébral, entre autres, ce qui fait que ça rend ça assez difficile. Et on est chanceux, on utilise un des seuls, il y a deux scanners au Canada qui ont une puissance de 7 Tesla. Oui. On en a un à Montréal, à l'Institut neurologique de Montréal, et puis on va pouvoir aller voir de façon plus spécifique ces petits noyaux-là qui sont situés dans le tronc cérébral.
C'est ce système-là, finalement, qui, j'allais dire, pose problème, mais qui est affecté, en fait, par la COVID longue.
Voilà.
De ce qu'on se rend compte le plus en plus, finalement.
Voilà. Et j'ai aussi l'autre étude qui utilise l'électroencéphalographie, qui là, on va vraiment voir l'activité neuronale plus au niveau du cortex et d'essayer de trouver les liens avec les principaux symptômes qui ont été mentionnés par Mme Dussault, donc les malaises post-effort, la fatigue et le brouillard mental.
Oui, parce que c'est ça, c'est pas juste dans l'imagination des personnes, dans cette gestion d'énergie. Il y a physiologiquement des endroits où on peut justement retracer ce syndrome post-COVID, si je comprends.
Oui, bien, comme le professeur Moreau l'expliquait, on est à la recherche de biomarqueurs, donc vraiment là, des mesures concrètes qui nous permettent d'associer les symptômes et un fonctionnement ou un dysfonctionnement d'une région spécifique dans le cerveau.
Oui. Professeur Moreau, vous êtes un expert international reconnu dans le domaine de la génétique moléculaire des maladies musculo-squelettiques complexes. Quels sont les symptômes de la COVID longue sur ce système-là musculo-squelettique?
Bien, évidemment, on va se retrouver avec une fatigue musculaire qui peut, dans certains cas, être extrêmement profonde et entraîner aussi des douleurs. Ce qui va, dans certains cas, reproduire certains symptômes qu'on retrouve, par exemple, chez les gens qui sont atteints d'une fibromyalgie sévère. Donc, ça peut aller à des douleurs musculaires et jusqu'à articulaires. Donc, ça devient encore une fois des symptômes qui chevauchent d'autres conditions et qui touchent aussi de façon beaucoup plus prévalente les femmes que les hommes. Donc, en musculo-squelettique, surtout dans les pathologies complexes, les femmes sont malheureusement plus souvent qu'autrement atteintes en plus grand nombre et en sévérité. Il y a aussi un facteur qui est clair, c'est qu'il y a une contribution des œstrogènes dans l'exacerbation de certains symptômes et certains des biomarqueurs qu'on regarde sont effectivement influencés par le niveau d'œstrogène. Donc, ça va varier d'un point de vue du cycle astral de la femme. Ça va varier aussi en intensité chez les femmes plus jeunes versus les femmes qui vont arriver à la périménopause ou à la ménopause. Donc, on voit que c'est pas juste parce que les femmes apprennent à vivre avec leurs conditions et font ce qu'on appelle le pacing, qui est une activité qui permet de protéger son enveloppe énergétique et de faire des choix dans les activités pour se prémunir justement de faire des chutes, des crashs qui vont les amener à devoir s'allonger pendant plusieurs heures, si dans certains cas même plusieurs jours. Donc, on voit cette influence-là des hormones sexuelles, notamment celle chez la femme, et c'est exacerbé dans certains cas aussi avec la prise d'anovulant. Donc, c'est important, mais c'est pas tout le monde qui a ces mêmes biomarqueurs-là. Donc, le fait d'établir d'associer, comme le mentionné le professeur Boudria, d'associer les biomarqueurs à des symptômes spécifiques va amener à révéler et de nous permettre d'agir et de permettre aux cliniciens d'agir sur les symptômes les plus débilitaires pour répondre aux besoins des patients. Parce qu'à la fin de la journée, on fait cette recherche-là pour répondre aux besoins des patients et aussi d'aider les soignants à amener des solutions pour les personnes qui fréquentent leur cabinet.
Oui, les plus efficaces. Madame Dussault, justement, j'aimerais vous entendre à nouveau. Est-ce que vous avez trouvé des moyens pour soulager ce que vous vivez?
Soulager, c'est un peu comme M. Moreau parle, là, le pacing, en fait, ben, c'est vraiment de gérer au niveau de son énergie. Ça, je le fais vraiment beaucoup. Puis moi, j'ai comme, je sais pas pourquoi, j'ai comme un symptôme qui apparaît très vite quand j'en fais un petit peu trop. Puis c'est tout de suite la gorge de mon côté. Donc, pas probablement respiratoire et tout. Donc, au niveau de la gorge, ça vient comme enfler, tout ça. Fait que je me dis, oh, OK. Fait que ça, c'est comme mon marqueur, en fait, à moi, là, qui me dit de, OK, on arrête un peu. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment le repos pour moi au niveau de soulager. Je suis sûre que je fais de la physiothérapie. Je suis quand même encadrée. Je prends des vitamines. J'essaie vraiment de m'aider de ce côté-là au niveau de l'alimentation aussi. Et c'est ce que j'essaie de faire, oui.
Oui. Professeur Boudria, comment on prend en charge ces patients, plus particulièrement du côté justement de l'accès aux soins, de la réadaptation, du soulagement?
Oui, alors au niveau de la réadaptation, bon, comme vous avez mentionné, je suis physiothérapeute de formation. Alors, on est vraiment tous les professionnels de réadaptation. Ce qui est au centre de notre profession, c'est vraiment d'aider les gens qui sont en situation de handicap. Donc, on parle de essayer de diminuer l'intensité, la fréquence des symptômes. Là, on a parlé du pacing, qu'on appelle la conservation d'énergie ou la gestion de l'énergie, ce qui nous aide à diminuer l'occurrence des malaises post-effort et donc de pouvoir éviter d'avoir les crashs dont mentionnait professeur Moreau, diminuer la douleur, diminuer les atteintes respiratoires, cognitives, neurologiques, et tout ça pour contribuer à l'augmentation des activités, de la participation et d'aider aussi possiblement au retour au travail. Et c'est très, très important et c'est quelque chose qu'on apprend, nous, à travers notre profession, là, c'est qu'avec ces clientèles-là de EM et de COVID long, il faut vraiment revoir nos pratiques. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir donner des interventions où on donne un programme d'exercice et là, on envoie...
Progressif,
voilà. Alors que là, quand on est en présence de malaise post-effort, c'est pas du tout la chose à faire. Ça demande vraiment une façon de revoir la pratique. Et j'aimerais aussi mentionner le fait que maintenant, on a les COVID longs, les cliniques de COVID longs qui nous permettent vraiment là, d'avoir... Un suivi plus adapté et personnel. Donc, il y a 15 cliniques qui ont été subventionnées là, par le ministère de la Santé et des Services sociaux depuis mai 2022 à travers les 15, à travers 15 CIS et CIUS de la province de Québec. Et là, on a donné des soins individualisés de réadaptation dès le début avec des conseils pour pouvoir... surveiller, monitorer et diminuer la fréquence des symptômes, ainsi qu'un suivi médical là, pour pouvoir aussi aider à gérer les symptômes de cette condition-là.
On a passé à travers des journées. Professeur Moreau, le syndrome de fatigue chronique, comment on le soulage? Est-ce qu'il y a du soulagement? Est-ce qu'il y a des moyens, justement?
Oui, bien, disons que pour tout ce qui était le volet des autonomies, par exemple, les gens qui ont de l'intolérance orthostatique avec ou sans tachycardie orthostatique posturelle. Donc, il y a quand même des protocoles de base que les cliniciens et cardiologues savent faire. Donc, on va augmenter, par exemple, prendre des solutions plus salines pour augmenter, pour que les artères durcissent un peu ici. On recherche à éviter l'hypotension. On veut mettre des bas de soutien. Il y a un certain nombre d'exercices orthostatiques pour essayer d'augmenter. Il y a des médications, il y a des médicaments, donc les bêta-bloqueurs. Et encore là, les bêta-bloqueurs sont pas tous égaux. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus adaptés pour traiter les syndromes de tachycardie orthostatique posturelle. D'autres vont moins bien fonctionner. Il existe aussi, on a capturé ça pendant justement nos tests provoqués, on voit aussi chez certains individus qu'il y a une genre d'insuffisance cardiaque qui va amener à ce qu'on appelle une insuffisance chronotropique, donc c'est un mot savant, mais qui veut tout simplement dire que le cœur n'est pas capable de s'adapter à la demande d'effort. Même quand on fait un effort, ici, on leur applique un exercice passif, le cœur normalement devrait se maintenir ou même augmenter légèrement le rythme cardiaque. Donc, on a certains individus, c'est plutôt rare, mais on les a détectés dans le contexte de l'encéphalomyélite myalgique et chez quelques COVID longs, où on voit fait que justement, lorsqu'on donne une demande où on voudrait que le cœur, à tout le moins, se maintienne ou augmente un peu de rythme cardiaque, il y a une insuffisance de ce côté-là. Les cardiologues savent très bien reconnaître l'insuffisance chronotropique et à ce moment-là, il y a un suivi en cardiologie pour ces gens-là pour voir quelle est la nature de la défaillance. Encore une fois, ça peut, si c'est une conductance électrique au niveau du cœur, le cardiologue pourrait aller jusqu'à recommander l'utilisation d'un pacemaker, OK? Il y a d'autres aussi, des médications qui peuvent augmenter le rythme cardiaque à l'effort pendant un certain temps. Mais ça relève de la cardiologie. Mais il existe déjà des solutions qui sont là pour soulager certains des symptômes les plus débilitants. Mais on ne parle pas ici de guérison faire des soins personnalisés pour les individus qui sont atteints.
Oui, merci. Pour terminer, professeur Boudria, très vite, que faire si on pense qu'un de nos proches, ou même nous-mêmes, pourrait avoir la COVID longue?
Oui, bien, de la conversation aujourd'hui, si vous avez, professeur Moreau le mentionnait, là, c'est pas nécessairement relié à une infection spécifique. Vous pouvez avoir eu la COVID et pas vous en être aperçu. Si votre condition a changé au cours des 3 dernières années, si vous avez des symptômes de fatigue que vous n'êtes pas capable d'expliquer, bien, allez voir sur le site du ministère des services de santé et des services sociaux l'ensemble des symptômes. Allez voir si ça correspond à vous. Et si c'est bien le cas, bien, allez consulter pour pouvoir avoir les soins. Parce que ce qu'on a en ce moment, c'est des gens qui ont développé la COVID longue, qui ne le savent pas et qui sont en train de se détériorer tant au plan physique qu'au niveau de la santé mentale. Donc, c'est vraiment d'être alerte. Si vous entendez des gens qui vraiment ont une condition qui a changé, bien, peut-être que ça vienne à l'idée, hop, on est peut-être en présence de cette nouvelle condition-là, développer les réflexes et puis de les écouter, ces gens-là, de les croire aussi et de les supporter. Hein.
Oui, c'est un beau mot de fin. Donc, merci beaucoup. Donc, vous venez d'entendre, on était en compagnie de Marie-Hélène Boudria, professeure agrégée à l'École de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill. On était aussi en compagnie d'Alain Moreau, qui est directeur du Réseau canadien de recherche concertée interdisciplinaire sur l'encéphalomyélite myalgique, je vais réussir ça, et aussi de Guylaine Dussault, qui est notre patiente atteinte de la COVID longue. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé aujourd'hui. Merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Réécoutez l'émission, partagez-la si vous l'avez aimée. Visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse pour avoir plus d'informations sur la COVID longue. On va en mettre. Passez tous une très belle semaine. Portez-vous bien. Jin Jiahua est un chercheur typique.